Bonjour, je suis Alice Quinn. Je vous lis des extraits de mon roman, Maldon au Festival de Cannes, en feuilleton. Il s'agit de la lecture numéro 12. Nous avons laissé Rosie à la fête sur le yacht, le Lady Moon. Elle s'y est rendue avec Gaston. Elle se retrouve avec les VIP des VIP sur le roof du yacht, entourée par les tables voisines remplies de ses ennemis. Il y a Girard, il y a le Chinois, il y a le Russe, il y a tout. Des gens extrêmement dangereux. Les d'Orsay, quant à eux, sont très méfiants à l'égard de Gaston et ils lui font subir un interrogatoire en règle quand soudain Michael d'Orsay le reconnaît. Il reconnaît Gaston Contigny, le célèbre poète, souvent primé. Allez, je commence. D'Orsay claque dans ses mains, enchanté. Je le savais, j'en étais sûr. Contigny, mais bien sûr. Quand vous avez eu votre distinction, j'ai été choisi pour déclamer La Gabinière, votre poème. Je voulais faire une carrière d'acteur à l'époque, puis j'ai bifurqué vers la réalisation. Je me dis en moi-même que si c'était pour enchaîner navet sur navet, il aurait mieux fait de s'en tenir au rôle de figurant au tarif syndical. Le voilà soudain qui se met à réciter « La brise de mer à l'heure tardive des liches d'été nous amène les hautes voix des journaliers qui rentrent des terrasses. » Vite rejoint, sous nos yeux médusés, dans sa déclamation, par Gaston himself, qui ne peut résister à ce plaisir de dire son propre texte à voix haute. La terre ocre sous leurs pas, à l'approche des sentes huileuses. Sur l'épaule, le refrain d'un chant marin, à l'adresse de l'août nouveau. Très vite, la table est voisine tend l'oreille et se transforme en spectateur distrait et attentif. Quand nos deux lascars, d'Orsay et Gaston, tout fiers, terminent leur show, tout le monde applaudit sur le roof. « Je comprends mieux votre réflexion, je vis de mes rentes, » dit Michael d'Orsay, rassuré. « Vous êtes un poète célèbre. » Gaston éclate de rire. « Vous n'y êtes pas du tout. La poésie ne fait pas manger son homme. Ma fortune provient d'un extrait que j'ai vendu alors que j'étais encore jeune à une chanteuse étoile du showbiz. Tout le monde s'exclame, j'ai l'impression que les d'Orsay ne le croient pas, mais ils sont sous le charme, et Gaston a l'air de s'amuser. Je cherche un prétexte pour quitter cette table et aller fouiller ce bateau pour retrouver Serco. C'est ma mission quand même. « À quoi penses-tu, cri-cri ?» me demande Blanche. Je sursaute, tous les regards se tournent vers moi, et je ris bêtement. « Vous trouvez pas qu'on s'enquiquine à 100 sous de l'heure ici ? Je propose qu'on aille danser en bas. » 45. Je les entraîne dans le bruit monstrueux d'un pont intermédiaire où la foule se presse. Je pousse Gaston au milieu d'une des pistes et nous dansons, avec comme but évident de la manœuvre, nous éloigner le plus possible des d'Orsay, surtout qu'ils nous perdent de vue, qu'ils nous oublient. Gaston parvient à s'esquiver des lieux principaux de la fête en m'entraînant à sa suite. Longer les couloirs, ouvrir des portes de cabine d'invités, fouiller les cuisines et quelques salles de rangement, tout ça au pas de course. Il marche devant moi, il me fait parfois des signes, attention, et il se planque contre les parois. Il ressort des cabines que nous fouillons en sifflotant d'un air décontracté comme s'il vivait là, dès que nous croisons quelqu'un, puis il me fait un signe pour que je le rejoigne rapidement dans une encoignure. Nous avons beau examiner, ouvrir et refermer des portes, nous pencher pour regarder dans les placards. Pas de Serco. Nada Serco, je m'écris. C'est pas juste. C'est vrai, dit Gaston. Nicht, je veux. Nichego, Serco. Il fait quoi? Il écrit une poésie en zoulou? Nous voilà revenus aux abords de la piste de danse. Tout en piochant dans les amuse-gueules et en avalant quelques gorgées de champagne, Gaston essaie de tirer les verres du nez de quelques personnes isolées. Il est assez direct, mais avec son sourire communicatif, son langage vieillot et sa décontraction, les gens se dégèlent vite. C'est ainsi qu'il arrive à obtenir des infos sur le proprio du club. Il essaie de découvrir d'où vient la fortune de Girard, quel est son vrai caractère. mais aussi si quelqu'un a vu Sergo ces jours derniers. Il apparaît que Girard est l'héritier de sociétés dérivées de la fabrique de savon de son arrière-grand-père Lorrain. Sa famille était mêlée aux nazis pendant la guerre. Burke, ça pue. La modeste fabrique de savonnerie est devenue la plus grosse affaire de cosmétiques d'Europe. Tout ça ne nous dit pas ce qu'il fait actuellement. Soudain, Paloma, la petite fiancée de Sergo, se matérialise à nos côtés. « Je vous observe depuis un moment. Vous faites quoi? Vous posez des questions sur mon père, non ?» Nous sommes un peu gênés. « Non, non, c'est les gens qui parlent tout seuls. » « Les gens ne vous diront rien d'important. Demandez-moi, ça sera plus direct. »« Vous savez où est Alan ?»« Justement, c'est lui que je cherche, je lui dis. Il m'a fait promettre de veiller, sur vous aussi. » La piste s'arrête ici, sur le Lady Moon. « Vous l'avez revu ?»« Non. Je suis un peu inquiète et papa ne veut rien me dire. Je ne veux pas trop lui en parler pour qu'il ne soupçonne rien. » Si le film était un succès, il accepterait notre mariage. Mais maintenant, il va vouloir que j'épouse David Hu. Le footballeur Golden Boy chinois? Il faut résister, dit Gaston. On n'est plus au Moyen-Âge. On ne marie plus les filles de force. Je vais sûrement pas résister. J'ai pas envie de finir enchaîné au fond d'un océan. Regard consterné entre Gaston et moi. Elle éclate de rire. Non, c'est une blague, mon papa chéri. Il ferait tout pour moi. C'est vrai qu'il a de drôles de fréquentations parfois, que certaines personnes disparaissent mystérieusement autour de lui et que ses activités flirtent clairement avec l'illégalité, disons. J'espère qu'il ne s'est pas fâché contre Alan. Il est capable de lui faire porter le chapeau de ses échecs. Il fait quoi exactement, votre père, à part président d'un club de foot ? Oh ça, c'est juste sa danseuse, le club, je veux dire. Bien que pour lui, une danseuse doive quand même rapporter. Elle nous fait un clin d'œil. Gaston et moi échangeons un regard, mi-consterné, mi-incrédule, sur cette blague déplacée. Vous voulez son pédigré ? Il a commencé dans la société familiale, mais il voulait marquer son passage et imprimer sa façon de faire. Alors il a dérivé vers la recherche chimique et les engrais industriels. C'est ainsi qu'il a fait des accords avec la Russie, puis avec la Chine. Le côté sérieux des affaires l'a vite ennuyé. Et à présent, il s'amuse grâce à des rencontres sulfureuses avec les pontes de la Bratva et de puissantes triades chinoises. Il a besoin de distraction, c'est tout. Avec eux, il a acheté un port, des complexes sportifs, il a monté une affaire de paris sportifs aussi, à une échelle mondiale. Quelques joueurs de tennis ont été ses victimes, menacés de mort s'ils ne se couchaient pas dans certains matchs. « C'est affreux !» je m'exclame horrifié. « Non, c'est rigolo !» me répond-elle étonnée. « Ça remet pas en cause les vrais grands matchs. Je vous parle de tous ces joueurs qui stagnent dans les classements très moyens. Ça leur met du beurre dans les épinards, les bougres !» Sa mauvaise foi est flagrante. Ou alors, c'est de la naïveté? Pauvre Sergo, c'est cette écervelée qu'il aime. Il a fini par s'intéresser au football grâce à moi. Je joue au foot depuis toute petite. Ma mère voulait que je fasse du piano et de la danse. Moi, j'ai choisi le foot. Malheureusement, il est hors de question pour mon père que j'en fasse de façon professionnelle. Il n'accepterait jamais. C'est mon grand malheur. C'est ainsi que j'ai pris le remplaçant, Alan Sergo, sous mon aile pour vivre par procuration la carrière d'un footballeur pro. Et aussi parce que je le trouve sexy. Enfin, c'est accessoire. Manque de bol, il n'est pas très bon avec le ballon rond, dit Gaston. Et votre père, ça marche bien pour lui, le monde du foot ? Pas mal, la routine. Depuis qu'il s'en occupe sérieusement, il est donc mêlé à des histoires de corruption de clubs, de matchs truqués, de corruption de juges et d'enquêteurs suisses et monégasques. Chaque fois qu'il se déplace, il laisse dans son sillage une odeur de soufre, de corruption, quelques casseroles, des témoignages indignés qui font place à des silences profonds, des procès qui s'éternisent et des disparitions. Gaston a décroché, il fait des yeux morts. Il se demande si cette fille, c'est du lard ou du cochon. Vous ne pouvez pas penser ce que vous dites, s'exclame-t-il. Et puis, regardez, ça se retourne contre vous à présent.
Comment ça ?
Eh bien, Sergo, il est peut-être sa dernière victime collatérale. Et les autres ? La fille, les filles, et le garde du corps noyé, là.
Elle fait cul sec avec son champagne, puis se tourne vers moi, sans répondre à Gaston.
Vous avez une mission, mademoiselle Maldon. N'usurpez pas votre titre de superwoman. Retrouvez Alan et protégez-moi. Vous êtes payé pour ça, je crois.
Elle tourne les talons et nous quitte en éclatant d'un rire suraigu.
46. Je balaye la salle du regard. À cette minute, ce monde me fait horreur.
Je comprends ce que vous ressentez, me dit Gaston. Le contraste est un peu écœurant. Paillettes, strass, champagne, qui habillent noirceur des turpitudes.
Il y a des têtes qu'il me semble reconnaître parmi tous ces gens. Tout le monde a l'air de s'être donné rendez-vous ici. Je désigne à Gaston, le producteur obsédé avec un bandage sur la tête. Quand il me repère, il part à l'opposé. Son assistante, la vieille acariate, me fait un signe discret de victoire, accompagné d'un clin d'œil. « Tiens, voilà justement mon russe, Kalash, mon mafieux préféré à moi, avec ses deux acolytes. « Je vais aller leur dire deux mots, moi, à ces pieds nickelés, » dit Gaston. « Mais non, laissez-les. Rien de mieux que l'ignorance avec ces gens-là. Ça les vexe. »« Non, je vais m'en vais simplement leur dire de vous laisser tranquille, cri-cri. Je vais leur expliquer qu'ils sont grillés à la police s'il vous arrive quoi que ce soit dorénavant. » Il les interpelle en russe. Pendant qu'ils parlent à leur patron, Marco et Piotr me fixent avec haine et comme un duo dans un spectacle, ils font en même temps le geste de me saigner le cou en passant leur pouce sur leur pomme d'Adam. Je n'ai pas l'impression que Gaston les a beaucoup impressionnés, puisque Kalash ricane. Mais voilà que les Dorsay nous ont retrouvés. Ils se précipitent vers nous, et tandis que Michael entretient Gaston, Blanche Dorsay me saisit le bras et m'emmène vers le bastingage pour me parler. Devant nous, la baie de Cannes brille dans le noir, tous ces feux dorés se reflétant sur les flots. La productrice recommence à me parler de ma mère, et on dirait que ses questions se font plus précises. Elle essaie de savoir si ma mère a parlé de mon père, ce qu'elle m'en aurait dit. Mais c'est quoi, à la fin, cette obsession sur ma famille? Je vais craquer.
Écoutez, madame Dorsay, appelle-moi donc Blanche, dit-elle. Tu sais, dans le cinéma, tout le monde se tutoie. Et tout le monde s'appelle par son prénom.
Enfin, quand c'est pas par le nom.
Si vous voulez, enfin, si tu veux, bon, d'accord, Blanche. Ce que je veux dire, c'est, écoute, franchement, ton comportement est vraiment louche avec ton mari. C'est vrai. Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous fassiez une fixette comme ça sur moi, mes filles, ma mère, mon père? Vous avez un secret, là? C'est clair, un secret qui concerne ma famille. Bon, alors, arrête de tourner autour du pot et abrège.
Tu as raison, tu as raison. D'ailleurs, non, non, c'est pas un secret, c'est juste que c'est un peu difficile pour moi d'en parler.
Et soudain, sa voix se casse sur un sanglot, elle me tourne le dos et part rejoindre Michael et Gaston. Je me fonds dans la masse des danseurs et je les observe de loin. De là où je suis, je vois clairement et nettement le visage de Gaston. Soudain, attentif. Blanche Dorsay est tout comme lui. Elle lui parle à l'oreille. C'est normal avec ce boucan. Si on ne parle pas dans l'oreille des gens, on est sûr qu'ils vont rien capter. Michael Dorsay, sirotant son verre, les observe avec bienveillance. De temps en temps, il hoche la tête. Je suis furieuse. Gaston a donc droit aux confidences, lui. Et moi, pas. J'en ai ma claque de tout ça. Je veux rentrer. On est venu ici pour rien. Pas la peine de s'éterniser. Je fais un signe à Gaston pour lui dire au revoir. J'ai pas envie de l'attendre. Je fonce vers l'endroit où les Zodiacs embarquent les passagers pour les ramener à terre. Gaston me rejoint en courant. Il ne me pose aucune question. Durant toute la traversée de la baie, je me tais, frustrée, déçue de la soirée et surtout par la félonie de Gaston.
Ce n'est pas souvent que je me retrouve dans cet état. Mais bon, après tout, je suis comme tout le monde. J'ai aussi mes moments de blues. Même si ça m'étonne moi-même, toujours. Gaston me raccompagne, me dépose devant la porte de ma caravane. Pastis m'attendait, perché dans son arbre. Il me saute dans les bras. « Vous êtes épuisé, cri-cri. Reposez-vous bien, ma chère. Essayez de dormir. Vous verrez, demain, nous le retrouverons. » « C'est pas la peine de faire votre mielleux, Gaston. Franchement, je pensais pas que vous étiez fou cul à ce point. Allez, ciao !» Je claque la porte au nez de mon Gaston, qui repart penaud. « Ça lui apprendra à me trahir. » Après une séance de démaquillage qui dure des plombes, tellement j'avais mis de fond de teint pour cacher les marques de coups, je me couche en miettes, en me demandant si Sabrina a trouvé un nouveau mot à dire aujourd'hui. En m'endormant aux côtés de mon chat, je me souviens de quelques paroles de la chanson du jour que ma mère m'a envoyée ce matin, celle de Renaud. Moi, la mère, elle m'a pris au dépourvu, tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie que j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Noir. Et voilà, j'arrête là, et bien...